Et à tous, et c'est toujours une joie et un plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer, de chanter à la gloire de notre Dieu et de partager et de méditer sa parole, de savoir ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, qui est toujours d'actualité, qui est vrai pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Voyons ce que le Seigneur a encore à nous livrer aujourd'hui. Donc continuons d'annoncer l'Évangile. Juste avant de commencer, je vous invite à lire ce qui s'est passé juste avant. Les versets 1 à 9. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ?» Eh bien, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi !» Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors j'ai voulu revenir un petit peu en arrière pour vous démontrer à quel point on part d'un scénario plus général, hein, des bruits, mais ne soyez pas effrayés, mais il faut que cela arrive, là-bas, au loin, par ici. Et puis dans les versets 9 à 13, là on va se retrouver au cœur de ces tourments annoncés, plus particulièrement, plus personnellement. Alors me direz-vous, mais cela peut faire peur, cela peut effrayer, cela peut faire douter, cela peut peut-être nous faire renoncer, nous faire fuir, ou peut-être il faut l'ignorer ou le rejeter. Jésus, au travers de cela, il pense à l'avenir, il pense à ce qui va se passer une fois parti. Et si nous pensons à cela, si nous relisons ce qui se passe après le départ de Jésus, cela se réalise. Donc Jésus pense à l'avenir. Il prépare ses disciples à des situations diverses, variées, mais des situations compliquées. Mais ils ne doivent pas penser que c'est la fin du monde. Jésus leur dit, je pars, mais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quelles sont les conséquences pour ses disciples de ces versets 9 à 13? Cette mise en garde de ne pas laisser s'égarer, hein, ne vous laissez pas séduire, c'est pas tout. Elle est complétée par une mise en garde contre les persécutions. Les disciples qui voulaient savoir sont concernés, ils sont directement impliqués, ça va être les premiers impliqués. Persécutions diverses et violences subies en vue du témoignage. Prédication de l'Évangile à toutes les nations. Témoignage avec l'aide de l'Esprit. Destruction de la cellule familiale à cause même de la foi, de cette même foi. Et rejet du monde à cause du nom de Jésus. Là, en ce moment, il y a des affiches sur les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Et je vais citer une de ses phrases. Il dit ceci, il avait écrit ceci. L'Église grandit sous la persécution. Mais là où il y a le calme et la paix, les chrétiens deviennent paresseux et apathiques. Ça, Cela peut sembler contradictoire, mais pourtant, à bien y réfléchir, c'est tellement vrai. Et puis citons aussi, un pasteur russe avait écrit ceci, « Lorsque la persécution est venue chez nous, il s'est avéré que nous avions trois sortes de croyants. Ceux qui ont abandonné la foi, ceux qui ont fait des compromis avec les communistes, puis ceux qui étaient persécutés. » Alors on pourrait se poser comme question, mais en fait, est-ce que Dieu serait-il sadique? Et nous, masochistes? Dieu serait-il pervers pour nous voir souffrir? Se plairait-il à la souffrance? Mais est-ce là la réalité? Est-ce que c'est ce que nous comprenons? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu nous laisser dans sa parole? Que nous ne sommes juste de la chair à maltraiter? Où Jésus nous a laissé ses paroles en disant « Certes, cela va arriver, mais vous en gagnerez le prix. » Relevons quatre points. Le premier, prenez garde. Soyez toujours prêts, équipés, armés, vigilants. Et j'aimerais vous lire, donc dans Jean au chapitre 15, quelques versets. Jésus dit ceci à ses disciples. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Ce qui est caché, ce qui est sale, vil, veut rester dans l'obscurité, afin de ne pas être dévoilé, révélé. Et puis dans Jean, au chapitre 16, au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la crainte. Non, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a montré la voie, il a vaincu le monde. Et nous aussi, grâce à lui, à cause de lui, nous vaincrons le monde. Jésus commence par mettre en garde ses disciples contre les séducteurs. Hein, nous avons lu que certains viendront en son nom pour nous raconter des balivernes. Il suffit de regarder et de comparer tout ça avec la parole de Dieu, qui, elle, ne trompe pas. Chacun prétendra être le Messie. Chacun invoquera pour qu'on le suive. Mais Jésus dit, ne prêtez pas attention. Ne vous laissez pas séduire. Afin de ne pas se laisser détourner de la réalité des Écritures, de la parole de Dieu. Et de rester fidèle dans l'attente du retour de Christ. Mais heureusement, le chrétien peut s'équiper pour résister et lutter. Et ça, nous avons un descriptif parfait dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 20. Là, nous avons toute une série d'énumérations que l'on pourrait identifier à la tenue d'un combattant. Un revêté toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à aller contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez vos reins ceinturés par la vérité. Revêtez une cuirasse de justice. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est important l'image de ces chaussures à ses pieds pour les porter l'évangile. Comprenez juste pourquoi après, dans quelques instants. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi. Oui, il faut la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les attaques. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous savez, c'est l'épée qui tranche le bien et le mal, qui sépare le bien et le mal. C'est la parole de Dieu qui révèle la vérité. Ah, parfois, elle pique, si je peux utiliser l'expression. Parfois, elle fait mal, mais c'est pour le bien. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et Paul est en train de vivre ce que nous venons de lire. Il le vit après le départ de Jésus. Mais Jésus dit, avant tout cela, prenez vos chaussures, prenez le zèle pour aller porter l'Évangile. Il faut que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. L'Évangile de la grâce l'a été par les apôtres, et la parole de Dieu doit continuer à être diffusée sans cesse, au plus grand nombre, afin qu'un grand nombre entende la parole de Dieu et se convertisse. Donc avant tout cela, allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai écrit dans sa parole, dans ma parole, dit Jésus, pas dans une autre parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc avant que tout cela n'arrive, avant que toutes les persécutions n'arrivent, il faut continuer à annoncer l'Évangile autour de nous, là où nous sommes. Il n'y a pas besoin souvent de faire des grands discours, une phrase, une attitude, un mot, un regard, un message. Et puis un autre point, ne vous inquiétez pas d'être persécuté, arrêté et interrogé. C'est peut-être plus facile à lire qu'à vivre. Nous ici, nous avons, je vais dire la chance, je dirais la grâce de Dieu, de ne pas connaître la persécution. Nous avons la liberté, les portes sont ouvertes, on n'a pas besoin de se cacher. Tout le monde peut entrer librement, sortir librement. Il n'y a pas de barreaux. Enfin, sauf, c'est pour protéger les vitraux. Mais il n'y a pas de barreaux, c'est libre. Il n'y a pas de policiers armés qui nous empêcheraient de rentrer. Ni, je dis de policiers, mais d'autres personnes. Est-ce que nous savons apprécier cette liberté? Et que faisons-nous de cette liberté? Ou est-ce que c'est tellement évident que rien ne peut nous arriver? Alors Jésus dit, mais avant que tout ce que vous entendez arrive, profiter de cette liberté pour aller prêcher l'Évangile. Jésus, dans Matthieu, rajoute ceci: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Au verset 16, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc pas forcément de grands discours, mais une attitude. Et puis toujours dans Matthieu, un peu plus loin, qui de vous, de moi, par ses inquiétudes, par mes inquiétudes, je peux ajouter une longueur à ma vie. Qui ? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain suffit à lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Sachons apprécier les moments là que nous vivons là, à partager la parole de Dieu. Jésus ajoute aussi ceci, toujours dans Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans l'enfer, dans le feu éternel. » La puissance du mal sera si grande que les liens naturels ne garantiront aucun membre de la même famille contre la haine des persécuteurs. Ce que nous lisons au verset 12. Même le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. On constate ce que le Seigneur avait toujours dit, qu'il n'apporterait pas la paix sur la terre. Il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, il est venu pour apporter la justice. Mais pour apporter l'amour de Dieu. La haine de l'homme se manifeste en brisant les affections naturelles. Selon l'esprit de Caïn, souvenez-vous de Caïn, déjà dans le début des Écritures, qu'est-ce qui s'est passé ? Caïn a tué son frère. Son frère. Et ils n'étaient pas tellement nombreux sur la terre à cette époque-là. Et un frère a déjà tué son frère. Et puis, dernier point, Jésus dit persévérer. Persévérer. Tu peux afficher le verset 13, s'il te plaît. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui demeureront fidèles au travers de ces circonstances si pénibles, sans se laisser détourner, ni par la subtilité de leurs ennemis, ni par les peines d'endurer, arriveront au temps de la délivrance que le Seigneur introduira aussi par sa venue. Veillez, a dit Jésus à ses disciples, veillez, veillez et priez, parce que vous ne connaissez pas l'heure. Si nous savions à l'avance que Jésus reviendrait, nous sommes le 28 mai aujourd'hui, le 29 mai 2020, imaginons, le 29 mai 2020, Jésus revient, que ferions-nous ? Que ferions-nous ? On ne va pas se faire des paris, mais on a le temps d'attendre. On a 2 ans pour attendre. Donc, on se réveillera vite la veille. Mais heureusement que Dieu ne nous a pas donné son timing précis. Il nous a donné des indications, mais pas de timing précis. Donc, tous ceux qui sont venus dire « Ah, attention, déjà en l'an 40 après Jésus-Christ, quelqu'un va annoncer que ça allait être la fin du monde. » En l'an 40, Et puis il y en a eu, mais Nostradamus, pour ceux qui se souviennent, pensait faire vaciller la terre. Il est mort et rien ne s'est passé. Et nous sommes en 2018. Quand Jésus reviendra? Cette nuit, demain? En l'an 5000? Dans 100 000 ans? On n'en sait rien. À la vitesse où va notre planète, 100 000 ans, ça me paraît loin. Mais Jésus reviendra. Et ça, c'est une promesse. Et nous, il faut que nous soyons prêts. Prêts maintenant. Prêt maintenant. Prêt justement pour, lorsque ces persécutions arriveront, que nous soyons prêts, que nous sachions, ah oui, c'est vrai, Jésus l'avait dit. Mais, il m'a donné un casque, il m'a donné une cuirasse, il m'a donné une épée pour pouvoir me défendre. Juste quelques petites parenthèses par rapport à la persécution. La persécution à cause de la foi en l'Éternel ou en Jésus est présente du début à la fin de la Bible. Partout, il y a eu des déportations, il y a eu des retours, il y a eu des reconquêtes, il y a eu des persécutions pour les églises, pour les chrétiens individuellement. Elle se manifeste de plusieurs manières. Parfois, c'est subtil, sournois, de l'intimidation, du rejet, de la haine. Privation des droits civiques. T'es chrétien? Ok, tu pourras pas travailler. Ou tu pourras pas avoir ce type de travail. Les sanctions au niveau professionnel, familial, des emprisonnements, des coups, de la torture, chantage, de la mise à mort. Souvenez-vous, en relisant les Actes, par exemple, Étienne, il a été lapidé. Paul aussi a été lapidé. La persécution, elle est présente dans toute l'histoire de l'Église, de l'Empire romain à aujourd'hui. Aujourd'hui, il semble que la liberté de religion est actuellement restreinte dans 40 pays. La persécution sévit dans 30 nations. Et on compte à peu près 200 millions de croyants qui habitent ces régions. Donc c'est une réalité pour quelques millions de personnes, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Souvenez-vous ce qu'a dit Luther. Souvenez-vous ce qu'a dit ce pasteur russe. Quand tout va bien, Jésus revient en 2020, on a le temps. On a le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas d'intérêt. Mais si on ne le sait pas, allez dire à ces gens-là qui sont persécutés, non, laissez tomber votre foi, restez en vie quelque part. Est-ce que c'est ça la vraie vie? La vraie vie sans Dieu, la vraie vie sans sa parole. Je vais vous lire un témoignage. Mais avant ce témoignage, donc là, la persécution, c'est une réalité. Et si on peut parler de rôle de la persécution, comme disait encore une fois ce pasteur et puis Martin, mais elle est bonne pour l'Église, parce qu'elle la stimule, elle la motive, elle lui donne une raison de vivre, d'exister, de se battre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Si vous saviez combien de fois où j'ai dû m'appuyer sur cette parole, celle que nous venons de lire, qui est dans la parole de Dieu. Je suis une femme chrétienne entourée de policiers musulmans et certains sont franchement agressifs. C'est ma 24e heure d'interrogatoire. Ils attendent que je leur donne le nom de ceux qui viennent aux réunions et me demandent pourquoi je persiste à parler de l'Évangile. Tu ne sais pas encore que la Bible est falsifiée? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi t'occuper de tes affaires et de ton mari ? Je trouve à peine la force de demander à Jésus de me donner une réponse. Et voilà que l'un d'eux, après des heures d'interrogatoire, réalise que mon Dieu est un Dieu d'amour. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'elle a eu besoin de prêcher comme un Martin Luther King ? Elle dit même, elle ne trouvait même pas les mots. Mais peut-être elle n'en avait pas besoin. Son attitude a parlé aussi pour elle. Depuis l'appel du Seigneur, j'ai toujours eu ce désir profond et brûlant de toucher ceux que je côtoie, des musulmans, par la bonne nouvelle du pardon et de la relation personnelle avec le Père, Dieu. J'avais passé un contrat avec le Seigneur. Je fais ma part et tu fais la tienne. Oui, c'est un contrat honnête. C'est ce qu'il fait. La croissance de notre groupe était surprenante. Très vite, nous en étions à 10 cellules de maison, avec 2 groupes de jeunes, soit environ 130 nouveaux convertis. J'ai été traduite en justice pour avoir participé à une église clandestine. Mais le meilleur dans l'histoire, c'est que j'ai littéralement prêché devant la cour. Ça, c'est pas banal, ça. Étant emprisonné, j'ai pu prêcher devant la cour. J'ai même chanté devant le juge. Pendant une période, la police nous retrouvait régulièrement, alors que nous changeons souvent de place pour les cultes. On se demandait comment ils faisaient pour nous localiser aussi rapidement et aussi facilement. Jusqu'à ce que l'on découvre qu'un frère avait craqué lors d'un interrogatoire avec la police. Vous vous souvenez ce pasteur, ce qu'il disait ? Persécution, 3 types de chrétiens. Ceux qui abandonnent, ceux qui compromettent et ceux qui résistent. Mais lui, il avait fait un compromis. Pour avoir la tranquillité, il devait dénoncer l'emplacement des réunions. Mais elle lui dit... Les autorités exercent tellement une grande pression que je peux pas lui en vouloir. Il y a plusieurs choses qui m'aident à tenir. Le soutien de mon mari, plusieurs fois arrêté lui aussi. Puis il y a la visite des frères qui nous apportent de la littérature chrétienne. Ils nous assurent souvent que les chrétiens prient parmi nous, à travers le monde, mais surtout nous sentons réellement la présence de Dieu. J'aimerais revenir sur un point et terminer là-dessus. Nous, quelle est notre attitude et quel est notre rôle en tant qu'Église non persécutée ? Ce privilège que nous avons de ne pas être persécutés, c'est de penser à ceux qui le sont. C'est de prier pour eux. C'est de les porter dans nos prières auprès du Père. C'est de demander à Dieu la persévérance. De demander à Dieu qu'il soit toujours équipé, qu'il ne jette jamais l'épée, qu'il ne retire jamais le casque, qu'il n'enlève pas les sandales ni la cuirasse, que le Seigneur continue à leur donner les armes pour avancer. Et justement, quand ils se retrouvent devant les tribunaux, que dit Jésus dans sa parole ? Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous allez à dire. Moi, je parlerai au travers vous. Je vous donnerai les paroles de sagesse. Voilà, nous, ce que nous pouvons retirer de ces messages sur continuer d'annoncer l'Évangile. C'est une réalité pour l'Église aujourd'hui. Elle a toujours été, mais encore une fois, nous avançons dans le temps. Nous n'avons peut-être jamais été aussi près du retour de Jésus que de son départ. Nous ne savons pas où est-ce que nous nous situons dans l'histoire, mais en tout cas, l'histoire avance. Tout cela, certaines choses se sont déjà passées, d'autres sont en train de se passer et certaines choses sont encore à venir. En attendant, préparons-nous, persévérons-nous de notre côté, nous qui ne sommes pas persécutés, pour aller de l'avant, pour témoigner, répandre l'Évangile et prier pour tous ceux qui sont persécutés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.